Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Aujourd'hui, nous allons parler de la PAC, la politique agricole commune. La politique agricole commune, de son petit nom, la PAC, on en entend parler du matin au soir, on la consomme trois fois par jour à chacun de nos repas. La PAC, prise telle qu'elle aujourd'hui, ce n'a pas vraiment de sens. Elle est indiscutablement associée aux accords de libre-échange qui permettent d'agréger les agricultures mondiales à celles de l'Union européenne. Contrairement à ce que l'on entend régulièrement de nos jours, l'objectif de la politique agricole commune semble assez éloigné d'assurer l'autonomie alimentaire de la population européenne. On pourrait d'ailleurs se demander si elle n'a jamais eu cet objectif. Quoi qu'il en soit, dans les faits, nous sommes tout sauf autonomes. Mais avant toute chose, commençons par un peu d'histoire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture est constituée principalement de polyculture-élevage pour une consommation régionale et vivrière. Un tiers de la population active travaille dans le milieu agricole. Les rendements stagnent depuis l'avènement de l'ère industrielle autour de 1 tonne de céréales produites à l'hectare. Mais ces rendements vont tripler en une quinzaine d'années. Non seulement on produit autour de 3 tonnes de céréales à l'hectare, mais dans le même temps, la population agricole est passée de 10 millions à 4 millions de personnes en France. Alors que cette population s'effondre, on assiste à une explosion de la mécanisation. En France, on compte 45 000 tracteurs. Au sortir de la guerre, on en compte pas moins d'un million en 1960. D'après un document de la FAO, Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture en 1960, au niveau mondial donc, la production agricole progresse de 2,5% par an, alors que la population ne progresse que de 1,5%. Au niveau européen, l'écart est encore plus grand. Pour un accroissement similaire de la production alimentaire, 2,5% par an, la population s'accroît de moins de 1%. On produit donc significativement de plus en plus d'aliments par personne, 22% de plus exactement. Un tableau présente les calories, protéines et lipides disponibles par habitant et par pays. En moyenne, par habitant, on y voit clairement que l'Europe est autosuffisante déjà en 1960. Dans le même document, on lit d'ailleurs que dans les pays occidentaux, l'augmentation du pouvoir d'achat des populations n'augmente pas pour autant la part d'achat de produits agricoles, mais se fait au bénéfice des achats de biens et services. Il n'y est nullement question de déficit alimentaire des populations. Au contraire, on s'y intéresse à l'augmentation des exportations. Toujours dans le même document, la FAO constate que le revenu des exploitants dans les pays occidentaux baisse et qu'une tendance pour y faire face est de réduire la population agricole, d'augmenter la taille des exploitations et donc supposément augmenter la productivité et l'efficience économique des unités de production. Tout cela pour dire qu'en 1960, on a déjà en Europe assez à manger pour satisfaire les besoins de la population. On a déjà largement rattrapé la production d'avant-guerre. Par contre, les échanges mondiaux sont de plus en plus importants. Une concurrence s'installe entre puissances, entre pays dits développés et les autres, plus ou moins soumis à leur bon vouloir. C'est dans ce contexte qu'apparaît la politique agricole commune, prévue dans le cadre du traité de Rome, traité fondateur de la Communauté économique européenne, signé en 1957. La PAC entre en vigueur en 1962. Elle entre en vigueur avec 5 grands objectifs affichés. Accroître la productivité de l'agriculture, assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements et assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Pour mener à bien cette politique, 4 grands outils sont mis en place. L'unicité du marché, on ouvre donc les frontières au sein du marché commun, la préférence communautaire, la solidarité financière, c'est-à-dire que les contributions financières des États sont proportionnelles non pas à leur production, mais à leur population. Et enfin, les prix minimums garantis. Une première modification majeure de la politique agricole est appliquée en 1984. Il s'agit de l'introduction des quotas de production. Jusqu'alors, les prix minimums étaient fixés denrée par denrée, ce qui pouvait engendrer des excès de production sur les produits les plus rentables. ce qui, d'une part, coûtait cher à la communauté pour des produits non consommés au sein du marché, et donc ce qui engendrait des excédents à vendre potentiellement à perte sur le marché mondial, ce qui était vu comme de la concurrence déloyale par les producteurs en dehors du marché européen. Les quotas permettent donc d'une part de réguler la production en fonction des besoins, et d'autre part, les quotas, en régulant production et demande, permettraient de maintenir des prix d'achat raisonnables aux producteurs. Une seconde modification importante est instaurée en 1992. Il s'agit de ne quasiment plus assurer des prix garantis rémunérateurs. Ils se rapprochent de plus en plus des cours mondiaux. La baisse de rémunération est alors compensée par des aides directes aux agriculteurs. Ce faisant, les stocks qui servaient à vendre les surplus au meilleur moment, ces stocks régressent. En 2003, l'OMC impose le découplage des aides. Celles-ci ne sont plus liées à la production, mais à une référence. En l'occurrence, la référence, ce sont les primes perçues les trois dernières années servant de référence historique. De plus, elles sont conditionnées au respect des règles, dont celle édictée par le traité de Maastricht, le respect de l'environnement et les bonnes pratiques agricoles. Bon, soyons rassurés, il s'agit surtout de règles, parfois de bon sens, parfois édictées par des lobbies relevant plus du greenwashing que du cahier des charges d'un label sérieux comme, par exemple, Nature et Progrès. En 2008, on signe l'arrêt des quotas résiduels. Les quotas laitiers voient leur fin définitive fixée à 2015. Aujourd'hui, on a un découplage total des aides. Celles-ci sont découplées de la production, découplées du nombre de salariés, mais couplé principalement à la surface agricole utile. Une exploitation de 500 hectares avec un salarié gagnera plus d'aides qu'une exploitation de 50 hectares qui arrive à rémunérer 5 salariés. Une inéquité soulevant relevée par le syndicat de la Confédération paysanne. Les aides européennes sont transparentes. En consultant le service Télépac, on peut savoir qui gagne quoi. Par exemple, la SCEA du Moulin à Vent, propriété d'un certain Arnaud Rousseau, touche 40 000 euros de subvention. Sur la période 2023-2027, les pays ont eu plus de marge pour adapter la PAC à leur territoire. Ainsi, décliné à l'échelle de la France, le plan national stratégique s'articule autour de trois axes. Favoriser le développement d'un secteur agricole innovant, résilient et diversifié, garantissant la sécurité alimentaire. Renforcer la protection de l'environnement et l'action pour le climat afin de contribuer aux objectifs de l'Union. Renforcer et consolider le tissu socio-économique des zones rurales. Bon, tous ces mots bout à bout, ça sent quand même le drone répandeur de pesticides et le GPS dans les tracteurs autonomes à plein nez, quand ça ne se relève pas du greenwashing ou du social washing. Dans les faits, on ne voit rien de concret, d'autant que les lois de déconstruction actuellement passées par les parlements européens et français détricotent tous les acquis sur le plan environnemental et social. Un autre vœu pieux que l'on retrouve dans ce document, la nouvelle PAC vise un objectif de 18% de surface en bio d'ici 2027. 18%, on n'y est pas, et puis franchement 18% c'est ridicule, sachant que les 80% autres, 7 fois plus, détruisent nos capacités à terme de subsistance. Pourquoi ne pas aider systématiquement, donc à grande échelle, les agriculteurs à sortir de cette industrie prédatrice et mortifère qu'est l'agro-industrie conventionnelle avec ses intrants de synthèse et ses pesticides chimiques? Côté budget, 114 euros, c'est le montant alloué par an et par habitant à la PAC. Si peu pour un sujet comme l'alimentation.
Aujourd'hui, la concurrence est nécessaire, c'est l'aiguillon qui est indispensable au progrès, et notamment au progrès économique, qu'il serait absurde pour un pays de s'enfermer, comme on le faisait autrefois, comme nous le faisions autrefois, dans des douanes et dans des barrières, et que par conséquent, pour se mettre à la page, jour après jour, année après année, il faut encore une fois la concurrence, bref, il faut un marché étendu.
Vous êtes toujours sur CFM et vous écoutez les croissants décroissants. Aujourd'hui, nous parlons de la PAC, la politique agricole commune. Nous avons vu dans un premier temps ce qu'est la PAC, comment elle a évolué depuis sa première mise en place en 1962. La PAC est un outil mis à disposition de l'Union européenne pour modeler sa production agricole. Au final, le constat est simple. La PAC a mis en place une agriculture productiviste. Elle nous a dotés d'une agro-industrie. Alors certes, il y a quelques réminiscences d'agriculture plus traditionnelle comme le pastoralisme montagne ou la production bio, mais cela reste une agriculture de niche, le gros de la troupe est dans ce que l'on considère comme conventionnel où l'on court après la productivité au détriment de la qualité, où seuls quelques-uns gagnent au détriment de la majorité. Après cette description des mécanismes mis en place par la PAC, intéressons-nous donc maintenant aux résultats, aux constats, aux faits que l'on comparera aux ambitions initiales qui ont été stipulées. Première constatation, le nombre d'exploitations en France est passé, d'après la base de données Agrest, de 1,6 million en 1970 à moins de 400 000 en 2020. Pour compenser, on est passé de 20 hectares de surface agricole utile en 1970 à 70 hectares en 2020. Ce qui disparaît d'un côté réapparaît de l'autre. Les exploitations ont disparu au profit de l'agrandissement des exploitations. Pourquoi ? À première vue, on pourrait se dire que c'est parce qu'il y a eu peu de repreneurs. Il faut dire que dans les conditions économiques et sociales proposées, tout est fait pour dissuader les jeunes. Mais aussi, on peut pointer le système des aides. Désormais, les aides sont principalement liées à la surface. Les hectares, ce sont des euros de revenus. Donc pour avoir plus d'argent, on peut être tenté de s'agrandir. Les terres du voisin deviennent donc un potentiel moyen de s'en sortir économiquement dans un milieu contraint par le marché. Avant, les agriculteurs se donnaient des coups de main, étaient interdépendants. Faire des moissons seuls relevait de l'impossible. Pendant un mois, les uns allaient chez les autres, donner un coup de main en attendant que les autres viennent nous aider à la moisson chez nous. Désormais, on peut faire seul avec son tracteur. Le voisin devient donc un terrain de prédation, ce qui ne va pas pour assainir les relations en milieu rural. Au même titre que le nombre d'exploitations, la population agricole ne cesse de se réduire. En France, des 10 millions d'agriculteurs en 1945, elle est passée à 4 millions en 1960. Aujourd'hui, la France compte 390 000 exploitations agricoles et un peu moins de 500 000 chefs d'exploitation. Y compris ces chefs d'exploitation, les fermes fournissent au total de quoi travailler à 759 000 personnes, soit à peine plus de une personne en plus que le chef d'exploitation sur chaque ferme. Chaque jour en France, ce sont en moyenne 22 exploitations qui ne sont pas transmises. 150 par semaine, 8000 par an, rien que ça. Le nombre de fermes a ainsi chuté d'un tiers entre 2000 et 2016. Et ça n'a pas l'air d'inquiéter tant que ça. Pour enfoncer le clou, d'après la Grèce, au jour d'aujourd'hui, un quart des fermes sont gérées par un exploitant de plus de 61 ans. Un autre quart a entre 55 et 65 ans. Bref, ça veut dire que la moitié des fermes sont exploitées par des personnes qui peuvent partir à la retraite d'ici 10 ans. Ce devrait peut-être activer quelques cerveaux, mais visiblement ça ne fait ni la une des journaux, ni l'agenda prioritaire du gouvernement. L'un des objectifs de la PAC était de mieux rémunérer les agriculteurs. Avec une telle réduction de leur nombre, tout en maintenant la production, voire en l'augmentant, on devrait mécaniquement voir leurs revenus exploser. Que nenni, il n'en est rien, au contraire. D'après l'INSEE, quasiment 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, bien au-delà du seuil moyen de la population française, qui est quand même de 14%. Visiblement, si l'objectif de réduire la population agricole n'a pas été clairement affiché, on ne peut que constater que c'est bien le résultat obtenu. Le secteur agricole représente aujourd'hui un actif sur 30 en France contre 1 sur 6 en 1970 et près d'un tiers en 1950. Mais où sont passés ces actifs ? Ils ont été transférés dans l'industrie, dans les services, dans des activités qui leur donnent peut-être de l'argent, mais sauf erreur, l'argent, ça ne se mange pas. Une fois piégé dans les emplois, endetté, sans avoir de quoi se nourrir à portée de main, il est facile d'avoir la main mise sur cette population, leur faire accepter l'inacceptable de postes sans intérêt, voire des postes qui vont contre l'intérêt du plus grand nombre. Pollution, abrutissement des populations, mainmise via les technologies. La politique agricole a donc permis de mettre plus de monde au service de l'économie de marché et a créé plus de consommateurs sur lesquels l'arme de la faim permet d'asseoir la puissance d'un État gouverné par une élite qui détient le capital. Quand on parle agriculteur, on parle d'une population assez vaste, du petit maraîcher en vente directe au grand céréalier agro-industriel qui vend sur le marché mondial. La marche est grande. Entre Sylvain, au marché du coin, et Arnaud Rousseau, à la tête de l'FNSEA, d'une société de production pour agrocarburants, qui joue sur le marché financier à l'échelle mondiale, la marche est grande. Si la plupart de la population agricole souffre aujourd'hui, quelques acteurs tirent leur épingle du jeu, s'attirent les financements, les aides diverses et variées, car ils possèdent de la terre, parce qu'ils rentrent dans des niches, soi-disant en bienfaiteurs de la biodiversité. Le service Télépac permet, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à chacun de voir qui gagne quoi via la PAC. On voit ainsi que les sociétés d'Arnaud Rousseau sur le code postal 77 440 touchent environ 250 000 euros. Rien que la SCEA du haut pays touche 28 000 euros pour pratiques agricoles bénéfiques au climat et la biodiversité. Et cette élite agricole, ses privilèges, elle y tient. De connivence avec l'élite politique, elle modèle les règles en sa faveur. Bon nombre de propositions de loi soumises par les députés de droite et extrême droite sont dictées directement par la FNSEA. Alors, la PAC n'a pas réussi à assurer des conditions de travail et des rémunérations justes pour ses agriculteurs. Elle n'a pas permis non plus d'assurer l'approvisionnement en alimentation de la population, puisque avant son élaboration, l'Europe était déjà autosuffisante. Elle n'a pas non plus permis d'assurer le maintien de l'outil agricole, le sol et la biodiversité. À cause des pesticides et autres pratiques mises en place, on assiste à une chute drastique du nombre d'insectes, d'oiseaux, de vers de terre, de champignons. Autant d'auxiliaires qui assurent gratuitement, avec une efficacité redoutable, la résistance aux maladies, aux attaques des nuisibles. On arrive même à perdre la terre, construite et retenue depuis des millénaires par nos ancêtres avec amour et abnégation. En moyenne, la terre des champs perd 1 mm d'épaisseur par an alors que la pédogenèse prend environ 50 ans pour produire la même quantité. La PAC aurait-elle permis d'améliorer les variétés produites en qualité? Non, au contraire. La sélection sur le critère principal du rendement a fait perdre la plupart des espèces et des variétés sélectionnées depuis des millénaires par nos congénères. La Primolstein pour le lait, le maïs de Monsanto ont suppléé les races locales adaptées à leur milieu. À la moindre maladie contagieuse, ces espèces peu robustes, au patrimoine génétique uniforme et quasi identique du nord au sud et de l'est à l'ouest, c'est l'hécatombe, c'est la tourmente sur le marché financier. Mais alors, qu'est-ce que la PAC a réussi à faire? À alimenter sainement les concitoyens? Il n'y a qu'à rentrer dans n'importe quel supermarché pour obtenir la réponse. Les rayonnages sont pleins à craquer de produits de mauvaise qualité, ultra transformés, qui augmentent le nombre de cancers, qui sont reprotoxiques, qui provoquent le diabète, qui induisent de l'obésité, qui contiennent des reprotoxiques, qui induisent de l'hypertension, qui créent une épidémie de maladies inflammatoires chroniques. Bref, une nourriture qui, au lieu de soigner le corps et l'esprit, offre une palanquée d'effets néfastes, qui, en plus, coûte cher. Car oui, le prix des denrées a peut-être baissé, mais d'une part, leur qualité nutritionnelle est si pauvre qu'il faut désormais en acheter plus pour obtenir autant de nutriments qu'avant. D'autre part, la malbouffe coûte extrêmement cher à la société. Ce que l'on ne paye pas d'un côté, on le paye au centuple de l'autre. Mais alors, cette PAC, qu'a-t-elle réussi? À assurer l'autonomie alimentaire des populations? En concentrant la production sur quelques personnes et en hyper-spécialisant les régions, là où un agriculteur nourrissait le voisinage, là où on pouvait trouver de quoi se sustenter en parcourant quelques kilomètres, on est désormais dépendant de l'autre bout de la terre, du transport, de la logistique. Parlons de l'autonomie alimentaire des villes. En moyenne, le degré d'autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines françaises est de 2%. Ce que l'on y mange, seuls 2% viennent d'exploitation locale. Dit autrement, 98% du contenu des aliments consommés dans ces villes sont importés. Paradoxe du tout, dans le même temps, 97% de l'agriculture locale des 100 premières aires urbaines finit dans des produits alimentaires consommés à l'extérieur du territoire. Donc, ce qu'on produit ici est mangé ailleurs, ce qui est mangé ici est produit d'ailleurs. D'après l'APUR, atelier parisien d'urbanisme, Paris consomme 3000 tonnes de denrées par jour. Autant à apporter sur place, en camion principalement. Entre les supermarchés et les plateformes, l'espace de stockage n'est pas si grand. Il n'y aurait que 5 à 7 jours de stock. C'est ça l'autonomie alimentaire? Être hautement dépendant du déplacement de camions au travers du pays? Être dépendant du bon vouloir des plateformes logistiques d'Auchan, Leclerc, Carrefour, Co? Au début de l'émission, nous avons vu qu'en 1962, lorsque la PAC commence à être mise en œuvre, l'Europe est déjà autosuffisante pour sa production alimentaire. En France, en 1990, le pays est autosuffisant pour la production en fruits et légumes. S'ensuit plusieurs traités européens qui induisent la dérégulation et l'obligation de concurrence. Trois traités, Maastricht en 1992, Amsterdam en 1997 et Lisbonne en 2007. Et surtout, il faut comprendre que désormais, la politique agricole commune ne régit que la production alimentaire en Europe et partiellement l'exportation. Elle ne régit ni la consommation ni l'importation d'aliments. Ce sont les accords de libre-échange qui s'en chargent. Il en existe une grosse trentaine en vigueur, une huitaine partiellement appliquée. Ces accords permettent des échanges sans droit de douane entre la Communauté économique européenne et les pays ou des groupements de pays. Les types de biens échangés ainsi sont définis en qualité et en quantité. Ainsi, en échange d'importer sans douane des denrées alimentaires pour les humains et les animaux, on peut placer toujours sans taxe des avions, des voitures, des produits chimiques, etc. Résultat, en 2020, la moitié des produits et légumes consommés en France est importée. Aux dépens du bien-être des populations, on préfère la concurrence, les arrangements entre amis. La concurrence, c'est faire appel au moins-disant, que ce soit sur la qualité, sur l'environnement et le social. Au contraire, on pourrait imposer des critères positifs sur l'importation. Cela aurait l'avantage de privilégier les produits de qualité respectueux de l'environnement et des travailleurs. Cela aurait pour avantage de mettre sur un même plan ce qui est produit ici ou ailleurs. Donc privilégier ce qui est produit ici, puisqu'identique à ce qui est produit ailleurs, mais avec le coût de transport en moins. On a vu, la PAC a plutôt échoué, et pas que sur un plan, sur quasiment tous les plans. Il serait grand temps de s'y pencher pour assurer enfin notre résilience alimentaire et l'égalité de droit d'accès à une alimentation saine et choisie. C'est ce que proposent les collectifs autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Il s'agit notamment de permettre à chacun de se nourrir avec des produits de qualité, locaux et de saison. L'avantage du local ? Une plus grande résilience et des emplois. La sécurité sociale de l'alimentation serait donc une base solide pour modeler une nouvelle politique agricole commune. On ne peut que l'espérer.
On veut du green, 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 washing.
En 2025, avec la mise en place des 15 heures par semaine d'activité, soi-disant d'aide à la reprise d'emploi, Arnaud Viala, président du conseil départemental de l'Aveyron, a voulu rassurer les agriculteurs. Aucun agriculteur bénéficiaire du RSA en Aveyron ne se verra infliger des heures d'activité avant 6 heures du matin ou après 21 heures, dit-il. Ah oui, ça c'est gentil. L'agriculteur passe sa journée de travail tranquille, gagne des clopinettes et, avant 6 heures ou après 21 heures, il peut travailler gratuitement pour combler ses 15 heures ou aller chez le coiffeur si le coiffeur est encore ouvert. Quoique, en fait, ça ne change pas grand-chose. Il travaille déjà quasiment gratuitement toute la journée. Alors, 2 heures de plus par jour, ça ne devrait pas trop lui changer la donne dans son labeur. Mais au fait, le RSA chez les agriculteurs, ça existe ? Oui, d'après la MSA, on compte un agriculteur sur 10 entre 250 et 500 paysans en Aveyron. Ce n'est pas rien. Et puis ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Car là où les conjoints étaient souvent aidants non reconnus à la ferme, aujourd'hui, ils sont aidants plus ou moins reconnus. Ils peuvent aider un peu à la ferme, mais en plus, ils ont une activité extérieure, un complément de revenu pour le foyer. Bref, le conjoint, c'est celui qui permet de mettre du beurre dans les épinards. Si ce n'est acheter également les épinards, payer la cuisson, la casserole et le toit de la maison. On appréciera donc d'autant plus la générosité de notre président de département qui, visiblement, a une certaine vision de la paysannerie, mais qui apprécie déguster quelques toasts en patrouille sur les marchés gourmands de la région.
N'écoutons pas les merveilles et les prédicateurs à lampe à huile.
T'as lu Le Monde, Le Figaro ?
Ouais. T'as lu L'Équipe, t'as lu Le Métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
Nous donnions la tendance assez préoccupante du nombre d'exploitations en France et son évolution à venir au regard de la population agricole. La moitié des chefs d'exploitation peut prétendre à la retraite dans les 10 ans. Cette tendance est aussi applicable ici en Aveyron. Et pourtant, cela n'inquiète pas beaucoup. D'une part, sans préparation, cela laisse potentiellement les terres à la merci d'un rachat par l'agro-industrie. D'autre part, ce peut justement être une opportunité pour que les citoyens reprennent le contrôle sur leur alimentation. Et pourquoi pas créer des régies communales pour alimenter les habitants des communes, les écoles, les maisons de retraite, avec des produits sains, produits localement, de saison, qui alimentent l'économie locale. Autant payer un salarié sur sa commune que de donner de l'argent à un grand groupe de distribution qui exportera 7 euros en dehors de la commune, voire le mettra dans un paradis fiscal ou le brûlera pour le bon plaisir du patron parisien. Si ce n'est pas les collectivités, pourquoi ne pas fédérer les citoyens dans l'achat collectif de ces terres pour qu'elles soient exploitées au seul profit des habitants du coin ? C'était Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez écrire à lescroissantsdescroissants@gmail.com. À la prochaine !
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.